BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Stéphane Pedrazzi.
Il est 16h sur BFM Business. À la une de l'actualité cet après-midi, les pays du G7 favorables à un plafonnement des prix du gaz et du pétrole russe. Consensus politique soutenu notamment par le président Emmanuel Macron. Pour autant, est-ce réellement applicable? Avec quelles conséquences pour les prix de l'énergie? On en parlera tout à l'heure avec les invités du club à partir de 17h. On parlera également de la Russie. Est-elle réellement en défaut de paiement? Le pays n'a pas honoré le paiement de sa dette étrangère pour la première fois depuis 1918. Défaut provoqué par des sanctions internationale, précise Moscou. L'agence de notation Moody's, pour sa part, reconnaît le défaut de paiement. On en parlera aussi avec nos invités. La Banque Centrale Européenne ira aussi loin que nécessaire pour lutter contre l'inflation. Déclaration ce matin de Christine Lagarde. La présidente de la BCE estime que l'inflation va rester excessivement élevée pendant encore un certain temps. Pour autant, elle devrait annoncer en juillet une hausse de taux de seulement 25 points de base. Pourquoi ce décalage? Là encore, on en discutera avec nos invités. Nos rendez-vous de cet après-midi, vous le savez, dans un instant, toute l'actu américaine, ce sera avec Grégory Volokhin, BFM Crypto à partir de 16h30 et bien sûr, le bilan de la séance boursière comme tous les jours à partir de 17h35. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ensemble jusqu'à 18h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Dans un instant, on ira à New York rejoindre Grégory Volokhin, le président de Bescard Financial Services. Mais d'abord, la séance en cours à la Bourse de Paris. On va en parler avec Aude Kersulek qui nous attend à Euronext et on complétera juste après avec Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse. Aude, on s'est parlé il y a un petit peu moins d'une heure et depuis, le CAC a un petit peu accéléré sa progression grâce aux marchés américains.
Et oui, le rebond s'amplifie. On est maintenant avec un gain de 1,3%, 1,36%. On est même allé jusqu'à 1,5% il y a un petit quart d'heure. 6129 points. On est repassé fièrement au-dessus des 6000 points. Et avec une grande quasi-majorité des indices, des actions qui sont dans le vert. Seulement 4 actions sur le CAC 40 qui s'affichent dans le rouge. Alors, on a, c'est vrai, quelques catalyseurs qui nous soutiennent. Évidemment, on a les yeux tournés vers ce qui se passe au Portugal, du côté de Sintra, où les banquiers centraux sont réunis sous la houlette de la BCE, qui tient son forum annuel. On a Christine Lagarde qui s'est exprimée ce matin en introduction, et évidemment qui nous a parlé d'inflation qu'elle a qualifiée d'excessivement élevée, et que ça pourrait rester comme ça un petit peu plus longtemps que prévu. Elle a évidemment réaffirmé cette hausse des taux qui surviendra en juillet, une hausse de taux de 25 points de base, et que ça pourrait être un petit peu plus au mois de septembre si besoin est. Et puis elle nous a aussi parlé, la présidente de la BCE, de ce nouvel outil anti-fragmentation, même si là on n'a pas tellement eu plus d'infos, parce que elle nous a juste dit que il aurait pour objectif d'éviter le creusement des écarts des taux souverains, et ça on le savait déjà. On écoutera ensuite évidemment Jérôme Powell et Andrew Bailey qui ont aussi fait le déplacement à Sintra. En attendant, c'est vrai que après la légère baisse d'hier sur le CAC 40, même si l'Europe n'était pas totalement d'accord sur la tendance hier, aujourd'hui on a vraiment retrouvé des couleurs, et c'est un petit peu le cas partout en Europe. L'Eurostoxx qui progresse de 0,9%, le DAX de plus de 1%, et donc Paris, une hausse assez honorable, 1,3%, et on est porté en plus par des secteurs industriels importants.
Notamment le secteur automobile qui est bien orienté, Aude.
Oui, l'automobile qui s'offre avec Renault, une hausse de 3,7%, 26,03€. On a aussi Stellantis qui est un petit peu plus loin dans le classement, mais qui s'offre un rebond d'un petit peu plus de 1%. Alors Renault, il y a une bonne nouvelle avec un partenariat avec Atos. Atos, évidemment un acteur de la technologie française qui a été un peu contrarié ces derniers temps, mais là, c'est un partenariat dans la donnée. Atos va analyser les données de Renault, du constructeur, et essayer de faire réaliser des économies à Renault. Alors on estime 200 millions d'euros par an d'économies. En tout cas, c'est une illustration de la transformation digitale et de la capacité d'innovation de Renault. Ça, c'est le directeur industriel qui le dit, et c'est vrai que ça se voit dans ce qu'en disent les investisseurs, puisque Renault en hausse de plus 3,7% et Atos aussi dans les premières places du SBF 120 avec une hausse de plus de 4,5%. Ça va lui faire du bien à cette valeur. Et puis on a d'autres aussi valeurs qui se démarquent. Airbus qui a qui a remporté un contrat de 160 millions d'euros pour le satellite Forum agence spatiale de l'Agence spatiale européenne et qui gagne 2,5% à 95 euros. On a les valeurs du luxe aussi qui remontent un petit peu, 2,5% pour LVMH. Alors évidemment, elles sont portées, ces valeurs du luxe, par les déclarations, des annonces des autorités chinoises, hein, qui vont réduire la quarantaine à l'entrée sur le territoire chinois. Forcément, ça va porter un peu les ventes dans le pays. Et puis, on a, parmi cette journée où vraiment la plupart des actions sont en hausse, quand même, le plus fort recul est aujourd'hui porté par Valneva, qui recule de 7,5%, hein, beaucoup plus que tout à l'heure sur le SBF 120. Valneva, donc après, pourtant, son autorisation de mise sur le marché du vaccin contre le Covid, eh bien, ça se passe un petit peu plus mal pour Valneva depuis hier. Elle s'échange maintenant à 11,83 €.
Merci beaucoup, Aude Kersulec. On se retrouve tout à l'heure à 17h35 précisément. Ce sera le fixing, la fin de la séance sur le marché parisien. Stéphane Sauduteil est également avec nous, responsable du site Technibourse. Stéphane, c'est moi ou les planètes sont en train de s'aligner à nouveau ?
C'est peut-être un petit peu tôt quand même pour dire ça. Effectivement, on avait, il y a encore une dizaine de jours de ça, un sentiment très très négatif sur les marchés. On le voyait sur le pourcentage d'investisseurs haussiers sur les États-Unis. On avait 11% d'investisseurs haussiers. Donc le marché en a pris le contre-pied assez logiquement. C'est vrai qu'en cela, il a été aidé par l'idée d'une récession qui a fait baisser un petit peu la projection des taux d'intérêt pour 2023. Ils sont passés de 4 à 3,4. Donc effectivement, ça a rassuré un petit peu les investisseurs, ça a provoqué une petite chasse aux bonnes affaires, bien entendu, hein, sur certains secteurs comme le luxe, hein, par exemple, ou l'automobile. Mais il est quand même peut-être un petit peu tôt pour dire si cette hirondelle va vraiment faire le printemps ou l'été maintenant. On a quitté l'étage inférieur, hein, dans lequel on évoluait ces derniers temps, c'est-à-dire 5840, 6000. On est dans l'étage juste au-dessus, que l'on peut parfaitement bien définir, entre 6000 et 6180. On a grignoté finalement aussi une partie de ce gap qui était resté ouvert à la baisse le 13 juin dernier, qui reste encore partiellement ouvert à l'heure où on parle, entre 6156 et 6177. Donc si on veut, passer encore à l'étage supérieur, il va falloir passer au-dessus de ce gap, au-dessus des 6180, dirons-nous, et on pourrait encore évoluer un cran plus haut, entre 6180 et 6380. Ça reste du domaine du possible, hein. Je pense que la correction technique aux États-Unis en a peut-être encore un petit peu sous le pied, mais il faut quand même se méfier, tout n'est pas rose, et puis on n'est pas à l'abri non plus, hein, de chiffres d'inflation encore peut-être élevés, hein, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, même si les matières premières ont un petit peu reflué ces derniers temps. Il y a du mieux, mais pour le moment, ça reste quand même une correction technique. On n'a pas complètement une zénitude quant au futur des marchés d'actions.
Merci beaucoup, Stéphane Sauduteil, responsable du site Technibourse. 16h passées de 9 minutes, l'actu américaine.
BFM Business. BFM Bourse. USA Today.
Avec Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services aux États-Unis. Bonjour Grégory, on va commencer avec un chiffre qui pique un peu. La confiance des consommateurs américains du Conference Board, l'indice est passé de 106,4 à 98,7 pour le mois de juin. Le consensus était au-dessus de 100, on tablait sur une dégradation, mais elle est beaucoup plus forte que prévu. Comment est-ce que vous analysez ce chiffre ?
C'est un chiffre très intéressant parce qu'en fait, cette confiance du consommateur, elle est à deux vitesses. Le chiffre dont vous parlez, c'est la confiance, je dirais, dans le futur, comment les choses vont aller et comment le consommateur en fait va se sentir, comment il pense qu'il va se sentir. Et là, on est au plus bas, ça c'est vrai. On dit au consommateur qu'est-ce que vous pensez dans 6 mois, et ce chiffre-là que vous dites 98, il reflète ça. C'est un plus bas depuis 10 ans. Donc en fait, c'est vraiment un moment où le consommateur est pessimiste, mais pessimiste sur l'avenir. Et ce qui est très amusant ou intéressant, c'est que sur le présent, et ça c'est le chiffre qui s'appelle situation présente, hein, ce chiffre, il est absolument sans changement depuis le mois dernier, hein, c'est 147, et il n'est pas en forte baisse, il est en baisse peut-être de 10% l'espace d'une année contre un autre chiffre qui s'est écroulé. Donc, ça veut dire quoi ? Le consommateur pour le moment, aujourd'hui, se sent plutôt bien. C'est pas l'enthousiasme, mais il se sent bien. Mais dans l'avenir, il pense que ça ira moins bien. C'est quand même très important de voir ça. Et c'est traduit vraiment par un chiffre, alors là, qui est, à mes yeux, extrêmement frappant, c'est les attentes d'inflation de ce consommateur. Alors, le consommateur, peut-être qu'il en sait même plus que la Fed, parce que c'est le consommateur qui va faire des achats dans les magasins, plus que Jérôme Powell. On ne le voit pas trop au supermarché, Jérôme Powell. Parce que le consommateur, il pense que d'ici 12 mois, l'inflation sera annuellement en hausse de 8%. C'est un chiffre qui est totalement hors norme, et ça montre à quel point donc les Américains ont peur, sont concernés par l'inflation qui va continuer d'après eux, et c'est pour ça que, pour eux, leur projet dans l'avenir commence vraiment à être très impacté.
Du côté des valeurs, on va parler de Nike. Petite déception après la publication des résultats, mais surtout, qu'est-ce qu'on a appris de nouveau, notamment au niveau de l'inventaire de Nike?
Oui, un chiffre qui est absolument incroyable, en fait. L'inventaire de Nike, où est-ce qu'il est? Les deux tiers de l'inventaire de Nike ne sont pas derrière les magasins, dans des réserves, dans des hangars. Non, ils sont sur des bateaux en ce moment. Ça veut dire que, en fait, tout ce qui est le transport entre l'Asie, où la plupart des chaussures sont faites, notamment au Vietnam, et les États-Unis, ça va très très lentement, ou bien tout simplement les containers sont bloqués, leur inventaire, en fait, il est en train de flotter. Donc c'est pas un chiffre inquiétant, c'est pas qu'ils ont trop d'inventaire, mais c'est qu'ils arrivent pas, en fait, à faire bouger cet inventaire. Et l'autre chiffre qui est très intéressant, qui a été donné par le CEO, c'est qu'ils disent qu'en une année, les coûts de transport et d'emballage, donc justement de mettre ces chaussures dans des containers, ont été multipliés par 5. C'est aussi un chiffre très impressionnant. Leurs résultats sont bons. Ils parlent beaucoup de la Chine parce que c'est une façon aussi d'atténuer certaines déceptions. Pourquoi je dis certaines déceptions? Ben, la Chine en baisse de 20%. Évidemment, c'est Covid, hein. Quand, par exemple, Shanghai était fermé, on va pas dans les magasins s'acheter des baskets. Mais ça détourne un peu l'attention d'un chiffre qui, lui, est plus inquiétant pour Nike. Les ventes aux États-Unis en baisse de 5%. Alors, baisse de 5%, ça pourrait être compensé par l'Europe, qui est en hausse de 20%, par exemple. Sauf que les ventes aux États-Unis pour Nike, c'est pratiquement la moitié de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est important s'il y a un ralentissement de leurs ventes aux États-Unis. Pourquoi ce ralentissement? On a l'impression qu'il y a eu beaucoup de discounts dans les magasins de chaussures comme Foot Locker, sauf que il y a beaucoup de ces magasins de chaussures qui ne vendent plus de Nike. Nike, ils préfèrent vendre directement aux clients et Nike n'aime pas trop baisser et faire des discounts. Donc, s'ils baissent pas leur prix et que les autres baissent leur prix, évidemment, ils perdent des parts de marché.
On va parler d'un deal qui devait se faire, Grégory, mais qui n'aura pas lieu. Walgreens ne va pas se séparer de la chaîne de drugstore Boots. Ça dépasse vraiment le cadre de ces deux entreprises. Vous pensez que c'est important pour l'ensemble du marché? Pour quelles raisons?
Alors, remettons peut-être nous dans le passé où il y a 6 mois. Il y a 6 mois qu'une compagnie telle que Walgreens voulait se séparer d'une division, qu'elle cherchait des investisseurs, en général de private equity, des financiers. Il les trouvait. Pourquoi il les trouvait? C'est que il y a 6 mois, pour emprunter, on payait pratiquement pas d'intérêt. Donc c'était facile, entre guillemets, de financer un achat et de le rembourser grâce au cash flow de la compagnie. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, ils disent Walgreens, on a reçu en fait qu'une offre. C'était une offre en fait par Apollo, qui est très connu évidemment comme private equity, et Reliance, la compagnie indienne. Et ils disent, mais en fait, cette offre, elle ne mettait pas un prix qu'on pouvait accepter, hein, pas un prix acceptable pour notre division Boots, qui sont donc les réseaux de distribution en Angleterre. Et pourquoi? Ben, ce que dit Walgreens, c'est à cause, en fait, de la situation des marchés. Alors, évidemment, quand il parle des marchés, il parle pas des marchés boursiers, il parle des marchés sur lesquels les compagnies se financent. C'est très difficile maintenant pour private equity de pouvoir justifier un investissement, parce que là, on parlait de 7 milliards de dollars, de devoir emprunter 7 milliards de dollars et surtout de pouvoir les rembourser tout en gardant des profits, surtout dans la distribution où les marges sont tellement, tellement, tellement faibles. Donc, c'est pour ça que c'est très important, ça veut dire, et je crois que François Monnier le disait tout à l'heure, ça veut dire tout simplement que pour private equity, maintenant, il y a beaucoup de problèmes les uns après les autres qui sont en train de se poser. Celui du financement pour se développer dans l'avenir étant peut-être le principal actuellement.
On va parler du secteur bancaire, Grégory. Après les stress tests, les tests de résistance menés par la Réserve fédérale américaine, quatre banques, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America et Wells Fargo, ont relevé leurs dividendes après avoir affiché de solides performances lors de ces tests de résistance. C'est une bonne nouvelle.
Alors, c'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle surtout, je dirais, pour les investisseurs, parce que contrairement à l'Europe, les banques rachètent énormément de leurs propres actions. Si en Europe, les banques françaises ou allemandes rachetaient pour, tenez-vous bien, 80 milliards de dollars cette année de rachats, donc d'actions par les banques américaines, on crierait au scandale. Ben, pas du tout, aux États-Unis, on est très contents, les investisseurs sont contents, évidemment. Et puis non seulement ces banques rachètent leurs actions, par exemple Morgan Stanley, qui là, alors a vraiment surpris parce qu'ils vont racheter cette année pour 20 milliards de dollars d'actions. Non seulement, donc ils rachètent leurs actions, mais en plus, ils augmentent leurs dividendes. Ça, c'est aussi quelque chose de très agréable à l'oreille des investisseurs. Par exemple, Morgan Stanley, là, l'augmente de 10%. Goldman Sachs, qui payait un dividende très faible, l'augmente de 20%. Ce qui fait que maintenant, en fait, toutes les banques américaines sont alignées, je dirais, entre 3-3,5% de dividendes annuels, qui est un chiffre, il faut pas l'oublier, qui vient de zéro, parce que les dividendes a été vraiment, ils avaient tous été suspendus pendant la crise des banques, la crise financière de 2008. Donc là, c'est plutôt un feu vert à la fois pour les rachats d'actions, pour les dividendes qui augmentent, qui montrent que le secteur bancaire, en fait, en ce moment, est très bien capitalisé, en tout cas aux États-Unis, et se porte bien, et ils ont assez d'argent pour le rendre à leurs investisseurs.
Le carnet du jour, Grégory, c'est Elon Musk, 51 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. À l'occasion de son anniversaire, il a franchi la barre des 100 millions de followers sur Twitter. En revanche, on ne sait toujours pas s'il va racheter Twitter.
Oui, la question, c'est qu'il le dit maintenant depuis des mois. Il dit, mais je ne sais pas exactement combien il y a de faux comptes sur Twitter, ce qu'on appelle les bots, ce qu'on appelle, par exemple, ces comptes qui sont uniquement générés par des ordinateurs. Donc, il a vraiment demandé à Twitter de lui donner des données. Et ce qu'a fait Twitter, d'une façon assez subtile, ils lui ont donné des données. Oui, ils lui ont donné toutes les données. C'est-à-dire qu'en fait, Twitter a tout simplement envoyé à Elon Musk tous les tweets qui était passé sur Twitter sur une année. Alors, on parle de milliards de tweets. Et comment est-ce que Elon Musk peut analyser ça avec une équipe, même si elle était importante, pour savoir parmi ces millions, milliards de tweets, combien viennent d'un ordinateur et pas d'une personne réelle? C'est absolument impossible, c'est clair. Puisque même pour une compagnie telle que Twitter, ils ont beaucoup de peine à analyser vraiment les tweets pour savoir qui est derrière. Alors, Twitter, ils estiment que 5% donc de leur base, entre guillemets, de clients n'existe pas, ou en fait sont des ordinateurs, des bots, des fantômes. Musk dit, mais ce chiffre est peut-être beaucoup plus élevé. Et s'il pouvait prouver qu'il est plus élevé, il pourrait peut-être dire, ben, je veux pas acheter Twitter parce qu'en fait, ils ont trop de comptes fantômes. Sauf que comment est-ce que Musk peut prouver sa théorie qu'il y a plus que 5% de comptes fantômes? À mes yeux, il ne le peut pas, ce qui veut dire que s'il ne le peut pas, il va devoir racheter Twitter. S'il doit racheter Twitter, la seule solution qui lui reste peut-être, c'est de proposer un prix plus bas sur lequel, vu que le cours est très loin du prix auquel il veut l'acheter, sur lequel le board de Twitter pourrait être d'accord.
Il y a des applications qui permettent de mesurer le pourcentage estimé de faux comptes sur son profil Twitter. J'imagine qu'Elon Musk a peut-être passé ses 100 millions de followers à la moulinette justement de ces applications. On va terminer avec le bull call du jour, Grégory. FGO Inc. C'est un chargeur pour voitures électriques au moment où Volkswagen vend à Siemens une partie de sa participation dans Electrify America. Donc vous êtes positif.
Je suis positif, mais en fait, si on était là aussi il y a six mois, j'aurais été extrêmement positif. Parce que c'était vraiment l'époque où on faisait encore de la gestion thématique. On achetait du solaire, on achetait l'énergie renouvelable. Maintenant, c'est fini. La gestion thématique a été enterrée. On cherche de la value. On peut pas dire que cette compagnie EVGO, c'est de la value. Alors, essayons d'avoir l'espoir basé sur une chose. Actuellement, EVGO à que 800 distributeurs, en fait, chargeurs aux États-Unis, sauf qu'ils viennent de passer un accord avec General Motors. Ils vont être donc le partenaire de General Motors, c'est quand même très important. Et en, non seulement en étant le partenaire, ils vont en gros intégrer leurs chargeurs dans le système de guidage des voitures de General Motors, ce qui fait qu'en fait, si vous avez une voiture que vous achetez chez General Motors, vous allez pouvoir, en vous arrêtant à la station Ivigeo, tout simplement, charger d'électricité. Vous n'avez même plus besoin de payer, de sortir une carte bancaire. La voiture va directement reconnaître d'où vient cette prise électrique, entre guillemets, et vous faire payer donc l'électricité. Vous n'avez vraiment pas d'effort à faire, ça va être tout naturel. Pourquoi je dis que c'est l'avenir? Ben, l'avenir, c'est qu'il y a vraiment un besoin énorme de ces stations rapides de, je dirais, de distribution d'électricité pour les voitures, sauf qu'il y en a encore très peu pour le moment. On estime qu'il faudrait, en gros, dépenser 5 milliards de dollars sur les prochaines années pour pouvoir satisfaire la demande vis-à-vis du nombre de voitures électriques. Alors évidemment, Ivigeo 800, j'espère qu'ils en auront 3000, 4000 d'ici une année ou deux. La compagnie Volkswagen Siemens Electrify America, ils en ont déjà 3000, ils vont peut-être en avoir 8000. Ça montre à quel point il n'y en a pas assez. Heureusement, il y a un projet et un programme de Joe Biden, 5 milliards de dollars pour ce secteur, sauf que comme tous les autres programmes de Joe Biden maintenant, pour l'appliquer, ça devient très difficile, ça passe par les États, il y a de l'opposition, ça devient très politique. Donc je dirais, il faut pas être enthousiaste, on peut en prendre un tout petit peu de Ivigeo, c'est un sujet très intéressant à suivre. Je dirais peut-être que General Motors va les racheter une fois, c'est spéculatif, et puis pourquoi pas, on a aussi le droit d'être un peu spéculatif de temps en temps.
Merci beaucoup Grégory Volokhin. Ivigeo, vous le dites beaucoup mieux que moi, président de Mescart Financial Services aux États-Unis. 16h21, on parle d'investissement responsable.
BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs.
Pierre Miramont est en plateau avec moi, responsable de l'analyse de fonds chez Cantalis. Bonjour.
Bonjour Stéphane.
Merci d'être avec nous cet après-midi. On va parler gestion diversifiée et ISR. Les fonds diversifiés et l'ISR, comment est-ce que les deux se marient?
Alors c'est vrai que diversifié ISR, c'est deux concepts qui parlent à la plupart d'entre nous. On peut peut-être d'ailleurs rapidement rappeler ce que c'est.
Voilà.
Un fonds diversifié, finalement, c'est un fonds qui va combiner plusieurs classes d'actifs, des classes d'actifs risquées comme les actions, des classes moins risquées, j'irai pas jusqu'à dire prudentes aujourd'hui, donc comme les obligations, dans des proportions ou fixes, on parlera de fonds d'allocation, ou alors variables, on parlera de fonds flexibles. Et du coup, selon son appétence au risque, selon ses objectifs d'investissement, on aura un produit différent pour avoir un fonds patrimonial, donc prudent, un fonds flexible qui pourra aller de 0 à 100% d'actions, des fonds d'allocation offensifs, donc plus actions. Donc tous ces fonds-là, ils vont tout simplement en fait intégrer les critères extra-financiers classiques, environnement, social et gouvernance, ou même aller sur de la gestion thématique. En fait, finalement, ils vont combiner le meilleur de ce qu'on a trouvé dans l'ISR pour des gestions, on va dire, plus traditionnelles. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, qui marche bien. Donc, pour illustrer ce propos, on peut donner quelques chiffres. Si on regarde la gestion diversifiée en France aujourd'hui, il y a à peu près 2000 fonds. Ça pèse environ 700 milliards. Il y a 25% de ces fonds qui intègrent déjà des critères extra-financiers, mais ça pèse la moitié des encours, 350 milliards d'euros. Donc voilà, c'est un univers qui est quand même assez étoffé.
Pourquoi investir sur des fonds diversifiés ISR? Quel est l'intérêt? C'est le sens de l'histoire ou est-ce qu'il y a d'autres intérêts?
Alors, avec l'ISR, c'est peut-être le sens de l'histoire. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plusieurs paramètres qui, je pense, font que ça peut être une bonne idée d'aller vers cette gestion diversifiée ISR. Alors le premier, on le voit tous, hein, c'est la volatilité du marché depuis le début de l'année et depuis quelques années déjà en réalité. Il y a peu de valeurs refuges, il y a une grande directionnalité. Si on regarde par exemple les fonds actions monde, donc la catégorie, ça perd presque 20% depuis le début de l'année. On se dirait, bah, allons sur l'obligataire monde. Alors bah, les fonds obligataires monde, ils perdent presque 9% depuis le début de l'année. Donc déjà, il y a une difficulté pour l'investisseur de trouver des valeurs. Ensuite, il y a un deuxième paramètre, c'est la complexité du marché qui est complètement intrinsèquement liée au premier d'ailleurs. Les banques centrales font du resserrement monétaire, les prix explosent, donc ça c'est lié bien évidemment. Il y a des divergences de croissance et des incertitudes sur la croissance un peu partout. Pour l'investisseur particulier, c'est très difficile de lire cet environnement économique. Et puis il y a un paramètre technique. Quand on veut faire des arbitrages sur son assurance vie, on n'est peut-être pas aussi réactif qu'un gérant. Quand on veut faire du stock picking, on n'a pas forcément toutes ces informations et on va avec de la directionnalité, peut-être embrasser le marché et pas forcément arriver à faire la différence.
Vous pensez que les fonds diversifiés peuvent répondre à cette complexité ?
Et bien finalement, les fonds diversifiés, on va donner les clés du camion à un professionnel qui va démarrer pour nous, qui va nous conduire. Et en plus de ça, comme on intègre cet aspect de durabilité, donc miser sur des titres qui, on va dire potentiellement, peuvent répondre aux enjeux de développement durable de demain, on va vraiment mettre toutes les chances de son côté.
Alors, quelques idées de fonds diversifiés ISR, vous êtes venu avec une liste ?
Je suis venu avec une liste de 3 fonds, exactement. Ouais. Donc, toujours dans cette idée de différents profils de risque, j'ai 3 profils de risque différents. À savoir, ils sont tous très durables, donc article 9 SFDR, ce que je vais vous présenter. Donc le premier, c'est un fonds flexible prudent Europe, plutôt patrimonial donc. C'est le fonds LBPAM SRI Human Rights, donc de la Banque Postal Asset Management. Il est noté 5 étoiles, donc le maximum chez nous. Article 9 SFDR, il est labellisé ISR et Financial. Alors il fait moins 8,4% depuis le début de l'année. Mais sa catégorie, elle fait à peu près moins 10%. Et si on regarde, par exemple, un benchmark obligataire, on est sur les mêmes niveaux de baisse, mais avec plus de volatilité. Donc, un bon support pour la jouer défensive. Deuxième idée de fond, donc un fonds flexible cette fois-ci, plus équilibré dans son profil, surtout en termes de volatilité, autour de 10% de volatilité sur 3 ans. C'est le fonds équilibre écologique de Messieurs Autingre et compagnie gestion privée. Il est également 5 étoiles, il est article 9 SFDR, il est labellisé ISR. Alors, il perd 9% depuis le début de l'année. Mais si on regarde annualisé sur 3 ans, il fait à peu près 5,5%, avec une volatilité de 10%. Donc, moitié moins qu'un CAC 40, par exemple. Donc,
Et un troisième fonds perd beaucoup plus depuis le début de l'année.
Alors voilà, donc profil beaucoup plus offensif. Donc forcément, qui dit offensif dit plus de pertes. C'est le fonds Ecofi Agir pour le Climat de Ecofi. Il est quand même noté 5 étoiles Cantalis, il est labellisé comme les autres. Donc il perd autour de 16%, comme le CAC 40 finalement. Par contre, si on regarde sur 3 ans annualisés, il est autour de 7%, donc ça reste intéressant à long terme.
Quel titre on retrouve en portefeuille ?
Alors comme l'environnement, comme c'est un univers de fonds très hétérogène finalement, on va retrouver tout secteur, on va retrouver toute zone géographique. Donc pour l'illustrer, j'ai choisi quelques titres qu'on retrouve régulièrement dans ces portefeuilles. On va retrouver par exemple du français, Danone, donc de l'alimentaire, hein, du non cyclique, qui est aussi une valeur emblématique ISR, hein, malgré le départ
d'Emmanuel Faber.
Exactement l'année dernière, ça reste voilà un titre qu'on retrouve en portefeuille. Autre titre complètement différent, secteur des énergies renouvelables, Solar Edge Technologies, donc plus 7% depuis le début de l'année, une société israélienne. Donc voilà, vraiment, pour illustrer cette ISR, on joue la transition durable. Et puis on pourra trouver aussi des télécommunications, par exemple. Donc je cite aussi Telenor, donc une société scandinave, norvégienne plus exactement, mais qui a une grosse activité en Asie. Donc on joue la diversification géographique.
Merci beaucoup Pierre Miramon, responsable de l'analyse de fonds chez Cantalis. On marque une pause. Sachez que la Bourse de Paris est toujours en progression, 1,18%, 6118 points pour le CAC. Les marchés américains, le Dow Jones progresse de 0,46%, le Nasdaq composite est en baisse de 0,1%. On aura bien sûr l'occasion d'y revenir. Juste après la pause, ce sera bien sûr comme tous les jours BFM Crypto. À tout de suite.
BFM Business, BFM Crypto, le club.
Votre rendez-vous quotidien consacré à l'actualité des crypto-monnaies, de la blockchain, avec Vincent Gann et Xavier Frénaud par téléphone et Valentin Demey en plateau. Bonjour à tous les trois. Vincent Gann, analyste technique indépendant. Xavier Frénaud, associé chez Interactive Trading. Bonjour à tous les deux. On va s'intéresser évidemment au niveau technique, à l'évolution du marché. Le Bitcoin, 20 890 $. L'Ether, 1 216 $. Les deux en progression cet après-midi. On commence avec vous, Vincent.
Oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous, Xavier et Valentin. Alors, doit-on être déçu du rebond du cours du Bitcoin ? C'était peut-être ça, Stéphane, votre question sous-jacente. Le marché action rebondit assez fermement depuis une semaine. Je prends l'exemple du cours du CAC 40 ou encore du S&P 500, 10% de rebond depuis les plus bas récents. Et c'est vrai que, égard au lien entre le marché crypto, le cours du Bitcoin et les indices boursiers, et certains pouvaient s'attendre à mieux pour le cours du Bitcoin, c'est-à-dire un rebond technique vers 23 000 $, pourquoi pas 25 000 $, l'ancien seuil chartiste horizontal important. Alors, ne soyez pas trop déçus, parce que depuis les plus bas récents, le marché action a repris, ça dépend des indices, entre 5 et 10%. Le cours du Bitcoin, depuis ses plus bas récents, en cours de clôture, a repris 20%. Alors vous allez me dire, oui, de 17 600 à 21 000 dollars, c'est pas énorme, on vient de 69 000 dollars, mais il y a un rebond technique. Alors, après, sans se voiler la face, c'est vrai qu'il y a une déception, parce que depuis une semaine, les taux d'intérêt nominaux reculent, le prix de certaines matières premières stratégiques recule aussi, et puis, donc, le cours du Bitcoin et le marché crypto dans son ensemble, je pourrais parler davantage d'une stabilisation. Une stabilisation qui ne permet pas de trancher. Trancher entre quoi? Entre deux scénarios possibles. Le scénario numéro 1, le point bas est fait à 17 600. Et là, nous sommes dans la première jambe de reprise de la hausse à long terme, qui commence par ce rebond technique vers 23 000 ou 25 000 dollars. Le scénario numéro 2, non, le point bas n'est pas fait. Il manque une ultime jambe de baisse vers les 14 000, 15 000 dollars, qui est un support technique de long terme. Et donc, c'est face à cette expectative que pour l'instant, les investisseurs et les traders sont pour le cours du Bitcoin.
Xavier Fesneau, vous êtes d'accord avec l'un des deux scénarios, 14 000, 15 000 dollars pour un autre point bas, ça serait une baisse encore considérable, hein.
Ouais, enfin pour le moment, oui, pour le moment, on est simplement en train de sortir de l'apnée. C'est vrai qu'on a, on est en train de marquer une pause dans des tendances qui sont quand même baissières en daily depuis maintenant un moment. Donc ça fait pas de mal un petit peu d'oxygène. Effectivement, on a eu un rebond technique de 20% sur Bitcoin, comme l'a dit à juste titre Vincent. Après, techniquement, pour le moment, ça suffit pas en fait pour retourner cette psychologie. Alors attention, parce que on parle quand même du Bitcoin. C'est vrai que c'est ça reste le maître incontestable et incontesté pour le moment, mais sa dominance est en train de baisser depuis deux semaines. Il représentait 48% du marché il y a deux semaines. Aujourd'hui, c'est 43%. Donc, ça veut dire que le Bitcoin est un petit peu plus faible que d'autres cryptos, notamment que l'Ether, ce qu'on appelle en fait finalement une sous-performance en langage, on va dire, technique, est plus faible donc que d'autres cryptos. On voit qu'il y a un retournement qui est en train de s'opérer à court terme. Si on regarde le ratio ETH-BTC, et ce, pour la première fois depuis trois mois. Moi, j'aime bien regarder effectivement la capitalisation totale pour avoir une vue un peu plus large. Les rebonds, clairement, sont contrés très rapidement. Ça, faut pas le nier. Les volumes sont en train de baisser également. Donc là, le projet, pour le moment, aujourd'hui, en tout cas ces prochains jours et semaines, c'est de passer au-dessus des moyennes mobiles journalières. Moyennes mobiles à 20 jours, elles sont baissières. Ça passe sur la capitalisation totale autour des 960 milliards de dollars. On va arrondir à 1000 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 925 milliards de dollars. Donc, il ne faudra pas juste piquer une tête au-dessus des 1000 milliards de dollars. Techniquement et psychologiquement, ça permettrait déjà d'arrêter effectivement de se poser la question de combien est-ce qu'on va encore baisser, où est le point bas, et qu'on passe à une nouvelle psychologie. Dire les investisseurs, finalement, à ce moment-là, se poseront la question à nouveau, bah, lesquels sont les plus recherchés, sur lesquels je vais pouvoir investir, quels sont les projets sur lesquels j'ai plus de potentiel. Donc, pour le moment, effectivement, on est simplement dans des pauses. Après, pour autant, il y a d'autres cryptos quand même sur lesquels, à court terme, hein, qui sont recherchés, ce que j'appelle un peu des cryptos punchy, comme par exemple Solana ou Atom. Elles ont pris entre 50 et 60% par rapport à leur plus bas. Elles ont passé justement leur fameuse point de, le fameux point de repère des moyennes mobiles à 20 jours. Il y en a d'autres, hein, HTM, AVAX. Il faudra passer maintenant les moyennes mobiles 50 jours, donc ce sont des repères à moyen terme. Donc c'est vrai qu'effectivement, les cryptos ont beaucoup perdu en 2022. Solana, pour reprendre cet exemple-là, elle reste à plus 3200% par rapport à début 2021 pour avoir cette prise de recul. Donc effectivement, je suis d'accord avec Vincent sur c'est bien effectivement ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer à court terme. Il y a encore du chemin. Déjà, et ça c'est clair, il faudra préserver les 20 000 dollars sur le Bitcoin. Ça calmera déjà les esprits à court terme et ensuite on passera aux choses sérieuses. Si on repasse, il faudra vraiment repasser au-dessus de la tête les plus hauts du week-end dernier. 22 000 dollars sur Bitcoin, 1 280 dollars sur l'Ether, 1 milliards donc de dollars de capitaliser sur la capitalisation totale. Et ça serait d'ailleurs la première fois qu'on repasserait ces fameux points de repère moyenne mobile à 20 jours depuis 3-4 mois. Donc là, pour le moment, le marché essaye de passer ces niveaux. Il échoue systématiquement. Donc, voilà, encore courage. Hein, il y a des cols à franchir. L'étape n'est pas finie.
Merci beaucoup à tous les deux pour ce point technique. Vincent Gann, analyste technique indépendant, et Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. L'actualité des cryptos avec Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. Bonjour Valentin.
Bonjour Stéphane.
La start-up française Kaiko lève 53 millions de dollars pour accélérer son internationalisation. Kaiko, c'est un fournisseur de données sur le marché des crypto-monnaies pour les institutionnels et les entreprises.
C'est un petit peu notre Bloomberg français, notre Bloomberg tricot. tricolore qui effectivement lève 53 millions de dollars. Il y a quelques mois, presque un an, ils avaient levé 24 millions. Donc il y a une accélération dans l'objectif effectivement de gagner du terrain sur le niveau international. Keiko, qu'est-ce que c'est ? Globalement, c'est une entreprise qui déchiffre un petit peu ce qui se passe dans la blockchain. Tout est visible, tout est transparent et c'est immuable, mais faut-il savoir comment ça se lit ? Et c'est l'objectif de Keiko auprès des institutionnels. Donc en fait, ça se traduit un petit peu avec force et vigueur et aux yeux du grand public de cette peut-être institutionnalisation pardon, des crypto-monnaies qui se fait depuis plusieurs mois, où on a de plus en plus d'entreprises privées qui mettent des grosses sommes d'argent en jeu et qui aimeraient bien comprendre dans quoi ils vont. Donc voilà, c'est l'objectif de Keiko, expliquer les flux, voir d'où ils viennent, qu'est-ce qui se passe dans ce monde un petit peu l'autre flanc de la montagne, comme dit très bien votre collègue ici. Donc l'expliquer au grand public, l'expliquer aux institutionnels et créer des produits dérivés, créer des produits qui permettent justement de s'exposer en connaissance de cause pour ces institutions.
Keiko, le Bloomberg français des cryptos, qui a son siège d'ailleurs dans les beaux quartiers de Paris, boulevard Haussmann, pas très loin du siège parisien de Bloomberg d'ailleurs. La plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX est-elle sur le point de racheter l'application de trading Robinhood ? Des discussions seraient en cours du côté de FTX, mais son PDG, lui, assure que c'est pas le cas.
Il assure effectivement que c'est pas le cas. Il temporise, en tout cas, peut-être, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous attend avec cette acquisition. En revanche, ça incarne les grandes tendances qui se passent actuellement avec, on le verra dans un troisième temps, peut-être l'inverse, la finance décentralisée qui s'intéresse à la finance centralisée, mais là, c'est la finance traditionnelle qui s'intéresse de plus en plus aux actifs de la DeFi. On a vu, il y a quelques jours, d'autres banques privées se positionner sur le rachat de Celsius ou le sauvetage de Celsius, par exemple. Et là, effectivement, c'est entre les deux, c'est-à-dire FTX, SBF, son patron iconique qui détient FTX, une grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies, qui veut effectivement prendre de plus en plus de parts dans cette application Robinhood. Alors, ça prend sens, pourquoi ? Parce que ils essayent de plus en plus de faire de l'action traditionnelle avec des actions tokenisées ou ce genre de choses. La régulation française avait été un peu stricte avec, donc ils avaient fait demi-tour, d'autres plateformes avaient fait demi-tour. Là, il revient à la charge. Il détient déjà entre 7 et 8% de l'application Robinhood SBF. Donc, s'il voulait monter davantage de capital, il faudrait demander aux deux fondateurs qui détiennent la majorité de se mettre autour de la table pour discuter. Donc, on n'en est pas là aujourd'hui. En revanche, ce que dit pour le coup c'est Bloomberg qui révèle cette information, c'est que les discussions sont sérieuses et l'intérêt est commun, parce qu'encore une fois FTX n'a jamais trop caché son intérêt pour le monde traditionnel, et cette dualité pourrait prendre forme avec une application comme Robinhood.
On va parler des DAO, les organisations décentralisées où chaque détenteur de token de gouvernance peut voter. Alors que le marché baisse, elles n'ont jamais été autant sollicitées. On va d'abord peut-être faire un petit mot d'explication sur les DAO avant d'expliquer ce qui est en train de se passer.
Oui, tout à fait, il le faut effectivement. Une DAO, c'est une organisation autonome décentralisée. Qu'est-ce que c'est dans les faits ? C'est une sorte de forum, un site lié à une application, à un protocole, où tout un tas de personnes peut se connecter pour proposer des améliorations du protocole, ou justement, et c'est ce qu'on va voir dans quelques instants, comment dépenser l'argent généré par le protocole. Alors, tout le monde peut aller lire ces forums et ensuite voter pour les propositions contre ou pour, mais par contre, justement, pour faire ces propositions ou pour y prendre part, il faut des tokens de gouvernance. Ces tokens de gouvernance, c'est globalement à peu près pareil que des actions, mais avec tous les avantages qu'on connaît de la finance décentralisée, il y a tout un intérêt particulier aujourd'hui pour ces formes de tokens de gouvernance, justement au profit, enfin, au contrario aux actions. Et donc, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces tokens de gouvernance, ces DAO, et les protocoles qui vont avec, ça existe depuis des années. Le premier, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'ailleurs MakerDAO. C'est un protocole qui était l'un des premiers de la finance décentralisée qui émet le fameux DAI, vous savez, le stablecoin surcollatéralisé, qui justement était sous les feux de la rampe avec la régulation en cours dans l'Europe avec MiCA, puisqu'il y avait l'effondrement de l'UST de Terra qui avait un peu fait peur à tout le monde en imaginant que peut-être tous les stablecoins étaient similaires, alors que ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, effectivement, MakerDAO s'est rendu compte que grâce au fonctionnement du protocole, grâce à la capture de valeur crypto-monétaire qu'à ce protocole leader sur le marché de la finance décentralisée, ils avaient des dizaines, des centaines de millions d'euros, mais qui n'étaient pas forcément mis à disposition pour générer des revenus. Donc la proposition qui est en cours et qui fait référence à ce que je disais tout à l'heure, c'est 500 millions de dollars en USDC qui sont dans le protocole Maker et qui ne servent pas à grand chose. Parce qu'aujourd'hui, l'USDC, ben, ça va générer 1, 2, 3, 4%. Et le protocole, en tout cas, les gens qui détiennent son token de gouvernance se disent que ça peut être plus intéressant de le placer dans des actifs peut-être plus traditionnels pour générer des revenus supérieurs. Donc la grande question et le nouvel intérêt pour ces DAO, elle est double. Elle est d'une part, le marché est baissier. Donc effectivement, nos développeurs et les communautés ont davantage envie de créer des choses sans la pression de la communauté qui veulent absolument que le produit sorte. Donc il y a déjà ce
Donc c'est plutôt point. Un avantage ce contexte.
Ce point-là est un avantage effectivement pour les DAO, pour des bonnes propositions du protocole qui permettent de revoir certaines choses et d'améliorer le protocole. Parce que encore une fois, ça peut comment la question qui est actuellement posée sur Maker DAO, c'est que faisons-nous des 500 millions de dollars capturés par le protocole. Et là, n'importe qui peut dire bah moi justement j'ai envie de les donner à un tel et moi j'ai envie de les donner à un tel ou d'en faire ci ou d'en faire ça. Et c'est à ce moment-là que dans cet échange de capture de valeur et dans ce mouvement de fonds qui se dessine avec des institutions qui se déplacent de plus en plus vers la DeFi, on en parle souvent ici, Aave Arc, qui est le produit institutionnel de Aave, Compound, à l'équivalent dans d'autres thématiques, qui est son concurrent direct, eh bien, il y a ces institutions qui veulent de plus en plus aller vers la DeFi. Soit pour s'y exposer et créer des rendements, soit pour la modifier. La modifier pourquoi ? C'est la grande question. Aujourd'hui, qui détient ces tokens de gouvernance ?
Oui, eh bien, qui vote ?
Globalement, il y a deux manières de voter. Soit vous déléguez vos tokens comme un jour de vote et vous ne pouvez pas y aller, donc vous les donnez à quelqu'un. Vous faites une procuration. Donc ça, il y a des gens qui ont des procurations d'adresses avec des dizaines de millions de tokens sur certains protocoles. Soit, si vous achetez, Stéphane, un token Maker, vous pouvez aller voter à votre nom pour 1, 10 ou 40 tokens. Encore une fois, ça, c'est transparent. C'est-à-dire qu'on peut voir les flux et on peut voir, il y a même, contrairement à d'autres secteurs, la transparence qui permet de voir qu'on peut acheter un pouvoir de vote pendant quelques minutes, pendant quelques heures ou quelques jours pour aller changer la donne d'une proposition.
L'enjeu, c'est quoi ? C'est de dessiner le paysage crypto de demain ?
Exactement.
C'est ça ?
L'enjeu, Stéphane, c'est tout à fait ça. C'est comment va-t-on imaginer la DeFi demain ? Et en fonction de qui détient ces tokens de gouvernance, eh bien, ça va prendre un sens ou l'autre. Aujourd'hui, le marché des crypto-monnaies a baissé, donc l'achat de ces tokens de gouvernance, parce qu'elles ont un prix sur le marché secondaire, évidemment, eh bien, ont baissé. Donc, ce qu'on pourrait, on entend souvent ici les OPA sur la DeFi, on n'en est pas tout à fait dans cette imagination-là, mais effectivement, il y a le rachat de tokens de gouvernance par des entités qui veulent prendre un pouvoir plus important et qui veulent, alors avoir 51%, ça paraît un peu impensable aujourd'hui pour des gros protocoles comme Maker, Aave ou autre, mais qui veulent passer de 5 à 10, de 10 à 15 pour avoir un poids plus important. Donc c'est ça qu'il faut regarder, et encore une fois, c'est ça qui fera la différence dans les prochaines années, mais qui peut être regardé par n'importe qui, parce que la transparence nous permet de voir les flux vers où ils partent. Parfois, les adresses derrière, elles sont connues, donc on sait qui est derrière, ou en tout cas, on sait qu'il y a des gros enjeux pour la simple et bonne raison qu'encore une fois, c'est transparent et qu'on peut voir ce qu'on peut imaginer ailleurs réellement dans la blockchain.
Un dernier mot de la Russie qui va baisser ses taxes sur les cryptos. Alors, d'abord, cette info, et surtout pourquoi ?
Alors, ça vient de tomber. C'est tombé quelques minutes avant l'émission, là, à 16h30, c'est Reuters qui sort ce sujet. Donc, je revérifie les dernières informations. Il y a effectivement cette volonté de la Russie qu'on connaissait d'abord peut-être anti-crypto et maintenant davantage plus pro-crypto, peut-être pour échapper à certaines sanctions ou pour s'ostraciser des sanctions étrangères, qui décide effectivement de baisser les taxes. Alors, le projet doit encore être examiné par la Chambre haute et signé par le président Vladimir Poutine pour devenir une loi. Mais ça fait 2-3 jours que c'est discuté. Effectivement, c'est pour baisser les taxes à moins de 15%. Là où c'était à peu près 30% comme en France à l'époque. Donc l'objectif, exonération de TVA sur la vente de tokens, renouvellement émis, et baisse de la fiscalité sur les plus-values à 15%. Donc là, on a vraiment la volonté, un petit peu comme le Salvador, dans un autre secteur, d'être le laboratoire du monde et d'accaparer la création de valeur et les développeurs et les entreprises. Là, la Russie a l'air de se diriger vers la même ambition.
Et peut-être aussi le bras de fer entre la Russie et les pays occidentaux qui se déplacent sur le terrain des cryptos. Merci beaucoup Valentin Demey, journaliste chez Cryptost. Dans un instant, le sommet BFM Patrimoine, je vais vous donner la séance en cours à la Bourse de Paris puisqu'il reste un peu moins d'une heure de cotation. Le CAC est toujours en progression, mais ça s'essouffle un petit peu. On progresse de 0,9%, 6103 points pour l'indice CAC 40 du côté des valeurs. Encore toujours une belle séance confiance pour le secteur automobile. Rebond notamment du titre Renault qui gagne 2,5%. Bien orienté également les valeurs du luxe. La Chine a annoncé qu'elle allait réduire la période de quarantaine pour les étrangers qui entrent dans le pays. C'est perçu comme évidemment une bonne chose pour l'activité économique et donc par effet de ricochet pour les valeurs du secteur du luxe. Un mot des cours du pétrole. Les cours sont en hausse cet après-midi sur le Brent et sur le brut. 116,26 $ pour le Brent, la référence de la mer du Nord, et sur le WTI, la référence du marché américain, on était en hausse. Et puis vous le voyez à l'instant, on passe en très léger recul, 110,28 $, pratiquement inchangé pour le WTI américain. 16h47, on passe au sommet BFM Patrimoine.
Sommet BFM Patrimoine, 4e édition sur BFM Business.
Et vous l'avez vécu sur notre antenne il y a quelques jours, la 4e édition du sommet BFM Patrimoine. On va y revenir avec mes deux invités. Mathieu Dubalet, président de l'IA Patrimoine. Bonjour. Bonjour, merci d'être en plateau. Cédric Genet, associé fondateur de Cara Capital.
Bonjour.
Bonjour également et merci d'être avec nous. D'abord peut-être un petit mot de présentation, un mot sur vos deux maisons. Mathieu ?
Avec joie. L'IA Patrimoine, c'est l'entité de distribution de Lombard International Group, qui est un des leaders mondiaux de la structuration en utilisant l'assurance vie en unité de compte. On accompagne, on distribue les produits de Lombard International Assurance, qui est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise, auprès des acteurs de la gestion de patrimoine et de fortune, que sont les conseillers en gestion de patrimoine, les family office, mais aussi les banques de gestion privée et de fortune. Et à ce titre, on travaille avec un grand nombre d'acteurs, dont Cédric de Cara Capital.
Cédric, un mot de Cara Capital.
Bien sûr. Cara Capital, c'est un groupe de sociétés de conseil en structuration patrimoniale, conseil en investissement financier, conseil en investissement immobilier, dédié à l'entrepreneur et au chef d'entreprise, avec un accompagnement à 360 degrés et une vision multi-family office.
Alors, vous êtes au contact l'un et l'autre des investisseurs. Alors, c'est très intéressant, Cédric, dans le contexte qu'on connaît actuellement, marqué évidemment par le retour de l'inflation, la hausse des taux, la volatilité des marchés, quelle est la psychologie des investisseurs? Que vous demandent les clients chez Cara Capital?
Bien, dans un contexte de très bonnes nouvelles comme celui que nous avons, notre métier prend tout son sens. Et j'en veux pour preuve le nombre d'appels entrants que nous avons aujourd'hui.
Vous êtes quoi, la boussole?
De gens qui cherchent du conseil, ouais. Qui cherchent de l'information, qui cherchent quoi faire. Et au-delà de ces appels entrants, ce qui est assez amusant, c'est que évidemment il y a un attentisme fort, c'est-à-dire qu'ils viennent chercher du conseil, ils prennent le conseil, mais pour autant aujourd'hui ils ne cherchent pas à investir et déployer leur portefeuille de manière massive. Donc notre rôle, sachant qu'ils ont quand même compris que l'équation inflation et prudence, ça équivalait à perte, notre rôle, c'est l'éducation encore et encore et encore sur toutes les solutions qui sont disponibles. Et il y en a un grand nombre qui sont disponibles encore aujourd'hui dans ce contexte et qui sont potentiellement positives. Et à nous de leur expliquer comment les utiliser, à travers quels outils, et notamment l'assurance-vie luxembourgeoise.
Alors justement, ça c'est intéressant, Mathieu. En quoi est-ce que l'assurance-vie luxembourgeoise et adapté pour répondre à ses besoins et dans le contexte actuel, j'ai envie de dire.
Alors, dans le contexte actuel, presque plus que dans un contexte habituel, l'assurance vie luxembourgeoise est un outil qui est fantastique parce qu'il met à disposition un grand nombre de solutions en termes de gestion, en termes d'actifs qui vont pouvoir être éligibles, mais aussi en termes de mode de gestion. Et donc, pour un client qui va chercher justement à diversifier ses actifs, pour un client qui va chercher de nouvelles sources de rendement, parce que comme le disait très justement Cédric, sans risque dans un contexte de hausse des taux égale perte. Donc ça veut dire qu'un investisseur aujourd'hui, quand il a de l'argent à protéger, à préparer, à transmettre, il va devoir trouver des sources de rendement, il va devoir trouver des modes de gestion, il va devoir trouver des produits sur lesquels investir, et puis trouver la bonne structure. En ça, l'assurance vie luxembourgeoise est un véhicule extraordinaire. On travaille en architecture totalement ouverte, avec plus de 1200 gestionnaires différents à qui on va pouvoir confier des mandats, avec plus de 220 banques dépositaires chez qui on va pouvoir déposer les actifs. Et puis, on va pouvoir essayer de combiner, en fonction des besoins, des souhaits des investisseurs de participer ou non à la gestion, à la sélection des actifs, à confier des mandats selon tel ou tel profil et essayer d'aller chercher des expertises auprès de chaque spécialiste. Un spécialiste de gestion action, si tant est que ce soit le moment, un spécialiste de gestion obligataire, parce qu'avec la remontée des taux, peut-être qu'on peut trouver des choses. Appuyer ou accompagner nos partenaires Family Office dans l'identification, l'intégration d'actifs à liquidité réduite, parce que là aussi, on va pouvoir essayer d'aller trouver des rendements qui soient différents, ou en tout cas avec des maturités, des échéances qui sont différentes.
Je crois que chez Cara Capital, vous vous spécialisez dans une clientèle d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise. En quoi est-ce que, justement, l'assurance vie luxembourgeoise répond à leurs besoins?
Alors, l'assurance vie luxembourgeoise, on a beaucoup entendu l'argument de la sécurité, plus de sécurité à l'assurance vie luxembourgeoise. C'est un argument, mais c'est pas celui qui est majeur pour nous et celui qui est majeur pour les chefs d'entreprise. On entend aussi souvent la portabilité internationale, qui est aussi un argument, puisque les chefs d'entreprise ont un environnement international. Mais les deux vrais arguments qu'on utilise aujourd'hui, qui font que cet outil prend de plus en plus de place dans la construction d'un patrimoine d'un entrepreneur, c'est d'abord l'allocation d'actifs. En fait, l'assurance vie luxembourgeoise, et Mathieu vient d'en exprimer des éléments, c'est l'outil qui nous permet d'avoir le plus de profondeur d'investissement. Aujourd'hui, on n'a pratiquement aucune limite dans la construction d'une allocation d'actifs au sein d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois. Alors, il y a différentes catégories. Je prends la catégorie la plus, celle qui ouvre le plus de solutions. Que ce soit un portefeuille coté, non coté, on peut faire aujourd'hui à peu près ce qu'on veut en termes de construction de portefeuille à l'intérieur des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Et c'est vraiment pour cette raison qu'on utilise de plus en plus cet outil. Et la deuxième raison, c'est le levier. C'est la capacité de levier bancaire, le fameux crédit lombard, même si Lombard International Assurance n'a rien à voir avec ce terme de crédit lombard. C'est que sur la base des avoirs déposés, on a une faculté de lever du crédit bien plus facile avec cet outil qu'avec d'autres outils.
Et du coup, dans quel cas est-ce que vous les dirigez, vous, vers cette solution?
Eh bien, aujourd'hui, à peu près dans tous les cas, pour être tout à fait honnête, c'est un outil qui est pratiquement indispensable aujourd'hui dans la construction d'un patrimoine de long terme, avec une volonté d'investissement long terme. C'est vrai qu'un profil extrêmement prudent, on va pas forcément aller chercher l'assurance vie luxembourgeoise, pour des raisons notamment de non-accessibilité aux fonds en euros, même s'il y a des solutions prudentes qu'on peut mettre en place. Mais c'est vrai que dans une logique d'un patrimoine long terme, investi à long terme, sans nécessité de revenus réguliers, on va beaucoup utiliser cet outil.
Concrètement, quels sont les éléments qui, selon vous, font la force de votre partenariat, Mathieu, Cédric?
Je dirais que un des intérêts des partenariats de façon générale et de celui-ci en particulier, c'est qu'en tant qu'assureur luxembourgeois, on est vraiment à la croisée des chemins entre les investisseurs, les conseils, les avocats, les fonds, les sociétés de gestion. Et en fait, c'est en se nourrissant finalement de tous ces échanges, de tous ces modèles qu'on peut voir, de toutes les problématiques auxquelles on peut être confronté, qu'on va être capable d'échanger avec nos différents partenaires pour dire, bah tiens, on a vu telle solution qui a pu être implémentée, est-ce que ça correspond plutôt bien à ce que toi tu cherches à faire avec tes clients, et puis essayer de trouver à chaque fois quel est le bon modèle, quelle est la bonne source de diversification, quelle est la bonne façon d'intégrer les choses à l'intérieur des polices en fonction des horizons d'investissement du client, en fonction du cadre réglementaire, en fonction des desiderata de mobilité dont parlait Cédric, parce qu'un client qui va souhaiter rester en France ou un client qui va souhaiter prendre sa retraite en Espagne, on va pas du tout avoir la même approche, parce que des cadres réglementaires vont être différents. Et donc c'est en ça que l'intérêt de ces partenariats, il est extrêmement important, parce qu'on se nourrit les uns les autres des expériences, des savoir-faire sur un marché qui est extrêmement profond. Et quand on parle de 1000 sociétés de gestion, 220 banques dépositaires, plus de 3000 fonds de private equity, j'ai envie de dire qu'en effet, la nécessité de boussole, elle est présente, et la qualité de l'échange, elle est primordiale.
Cédric ?
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un produit génial parce qu'il est très compliqué. Mais qui dit complexité dit nécessité d'échanger et de co-construire. Et donc, on a besoin des équipes des assureurs luxembourgeois pour appréhender du mieux possible la complexité de cet outil et comment l'utiliser au mieux pour chaque cas particulier de nos clients, et d'utiliser les bons setups, les bons assureurs, bien sûr, les bonnes banques dépositaires, asset managers et autres. Et donc, c'est de la co-construction en permanence.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau dans le cadre du sommet BFM Patrimoine. Mathieu Dubalet, président de l'IA Patrimoine, et Cédric Genet, associé fondateur de Cara Capital. Un mot des marchés financiers. La tendance est en train de se retourner sur les marchés américains. Le Nasdaq désormais perd 0,7%. Le S&P, lui aussi, est en territoire légèrement négatif, -0,06%. Le Dow Jones toujours en progression, mais ça s'est franchement essoufflé depuis l'ouverture. Et du coup, ça pèse sur la tendance à la Bourse de Paris. On ne progresse plus que de 0,89%. 6101 points pour le CAC, avec un peu plus de valeur en territoire négatif. Toujours Capgemini en tête des baisses, -2,1%. ST Micro, L'Oréal, Sanofi et Saint-Gobain désormais qui est dans le rouge et qui perd 0,11%. La clôture, ce sera bien sûr en direct sur notre antenne, comme tous les jours, 17h35. On refera la séance d'abord avec Aude Kersulec et ensuite avec notre invité en plateau. On marque une pause, juste après ce sera le club.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.